Chapitre 4. Un champion insolent. Crois-tu qu'Hector va remporter le prix ? Demande Polyxène à la femme d'Hector. Toutes les deux se préparent à assister aux jeux qui ont été organisés pour clôturer les fêtes royales. Andromaque lance un regard malicieux à sa jeune belle-sœur. « Je n'en sais rien, demande donc à Cassandre. » Polyxène éclate de rire. « Ce n'est pas parce qu'elle a enfin réussi à devenir prêtresse qu'elle a réponse à tout. Et puis, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans les entrailles des animaux pour savoir qu'Hector est l'homme le plus courageux de Troie. » « Ce n'est pas moi qui dirais le contraire, admet Andromaque. Plus les années passent et plus je suis fière de mon mari. Cependant, le courage ne suffit pas toujours. L'homme le plus valeureux n'a que peu de chances de vaincre si les dieux sont contre lui. D'ailleurs, au lieu de parier pour Hector, tu devrais espérer qu'un jeune homme apparaisse tout à coup plus fort et plus beau que tous les autres, qu'il remporte le taureau et qu'il tombe amoureux de toi. » Polyxène a eu une moue sceptique. Quand j'ai demandé à Cassandre si j'aimerais l'homme que j'épouserais, elle n'a pas voulu me répondre. Quand je pense qu'elle se prétend voyante. Alors interroge Hélénos, tu sais bien que seuls les hommes ont le droit d'interpréter l'oracle. Un doigt sur la bouche, Polyxène fait signe à Andromaque de se taire. Trop tard. Cassandre est déjà là, tout près. À en juger par son air irrité, elle a tout entendu. C'est totalement injuste qu'il soit le seul à avoir le droit d'examiner les entrailles des animaux et de lire dans le vol des oiseaux, sous prétexte qu'il est un homme, déclare-t-elle en foudroyant Andromaque du regard. J'adore mon frère, mais son don est beaucoup moins développé que le mien. La plupart du temps, il se borne à parler de soleil et de pluie, de bonnes ou de mauvaises récoltes, à donner des conseils sur l'éducation des enfants ou la meilleure façon de rendre le bétail prolifique. Jamais il n'a de ces éclairs fulgurants qui me traversent parfois. Si seulement j'étais né garçon, on m'écouterait sans doute. Si tu étais né garçon, peut-être devrais-tu un jour te battre, objecte Andromaque. Aimerais-tu donc mourir en pleine santé ? La souffrance ne me fait pas peur, réplique Cassandre. Depuis des années, je m'entraîne à l'endurer. Je suis capable de tenir ma main au-dessus d'une flamme sans laisser échapper la moindre plainte. Crois-moi, on ne peut pas en dire autant d'Hélénos. Contrairement à Polyxène, qui ouvre de grands yeux pleins d'admiration, Andromaque n'est pas le moins du monde impressionné par sa belle-sœur. Cela ne te donne pas la force physique. Si tu te déguisais en homme pour participer au jeu, tu arriverais bonne dernière, ou plutôt bon dernier, et tu serais la risée de toute la ville. Polyxène bondit sur ses pieds. On ferait bien de se dépêcher si on ne veut pas rater la moitié des épreuves. Tu viens avec nous, Cassandre ? À moins que tu ne sois retenu au temple. Je vous rejoindrai dans un moment, répond Cassandre. Je suis impatiente de savoir qui va gagner. Tu paries pour qui, toi ? Devine. Toutes les trois rient, leur insouciance retrouvée, toutes heureuses d'aller admirer les concurrents. Même Cassandre, en cet instant, ignore que le destin vient de se mettre en marche. Les jeux ont commencé dans l'enthousiasme général, mais la fête a failli tourner à la catastrophe. Au début, personne n'a vraiment prêté attention au grand jeune homme solidement bâti qui s'est inscrit à toutes les épreuves. Polyxène a bien songé un instant en le voyant prendre le départ pour la course qu'il ressemblait vaguement au fiancé que lui a souhaité Andromaque. Mais la beauté ne suffit pas. Même lorsqu'il a atteint le poteau largement avant les autres, elle n'a pas senti battre son cœur. Cassandre a beau dire, l'admiration ne peut pas remplacer l'amour. Les épreuves se sont succédées et à chaque fois le mystérieux inconnu arrivait bien en tête. D'abord déterminés à le battre, les fils du roi ont fini par se rendre à l'évidence. Ce rustre bâti en athlète allait leur souffler la victoire finale. Son teint sombre et ses muscles puissants trahissaient sans peine ses origines. C'était de toute évidence un fils de berger, né et élevé dans la montagne, contraint de chasser pour se nourrir, ayant toujours vécu à la dure. Contre une pareille force de la nature, on n'a aucune chance, a bougonné Hector. « Je n'ai pas dit mon dernier mot, » a répliqué Déiphobe en s'épongeant le front. « Je ne vais tout de même pas me laisser piétiner par un vulgaire berger. » Les fils de Priam ont sauté sur leurs chevaux en reprenant un peu d'espoir. Déiphobe a des muscles d'acier et l'orgueil plutôt chatouilleux. Mais cette fois encore, le bel inconnu est arrivé en tête. La foule qui avait jusqu'alors pris soin de modérer son enthousiasme pour ménager l'amour-propre des fils du roi n'a pas pu s'empêcher d'applaudir avec frénésie. « Là, il dépasse les bornes !» s'écrie Hector en entraînant ses frères d'un grand geste du bras. « On va lui montrer de quel bois on se chauffe !»« Bien parlé !» renchérit son frère Politesse. Indifférente au hurlement de joie de la foule, la petite troupe des fils du roi s'avance vers le vainqueur, épaules redressées et sourcils en bataille. Un peu impressionné, malgré tout, le jeune homme comprend soudain qu'il est en danger. A-t-il commis un sacrilège en se montrant plus fort que les fils de Priam ? Bien campé sur ses deux jambes, le buste droit, il explique d'une voix calme quelle raison l'a poussé à participer au jeu et pourquoi elle tenait tant à remporter le trophée. Lorsque les domestiques du roi sont venus dans la montagne pour choisir le taureau qui serait remis au vainqueur, ils ont désigné la plus belle bête du troupeau que je garde, mon préféré. C'est uniquement dans l'espoir de le récupérer que j'ai participé au jeu. Peu importe les raisons, réplique Politesse, tu t'es battu comme si tu étais prêt à nous passer sur le corps pour gagner. Vous êtes tous d'accord avec moi, je suppose. Politesse se tourne vers ses frères, qui forment une masse compacte et menaçante. La foule, comprenant qu'il se passe quelque chose d'anormal, s'est tue. Au milieu de ce silence insolite, dans la poussière qui vole encore et par-dessus les piétinements des chevaux, s'élève la voix grave de Déiphobe. « Tu es en deçà de la vérité, Politesse. Il me semble à moi qu'il a triché à plusieurs reprises. » Et ce disant, elle sort son épée qui étincelle dans la lumière et s'avance vers le jeune homme dont la seule faute est d'avoir couru plus vite que lui. Alors celui-ci, comprenant que sa vie est en danger et que toute discussion est inutile, court de toutes ses forces vers l'enceinte du palais dont il franchit la porte à la vitesse de l'éclair. Sur la droite se dresse un temple, le temple. Les fils du roi n'oseront tout de même pas s'attaquer à lui s'il se met sous la protection des dieux. En quelques enjambées, il se trouve devant la porte de l'édifice sacré. Il l'ouvre d'une violente poussée et va s'effondrer dans la pénombre rassurante. Il tend l'oreille. Des pas, des piétinements, des voix, le cœur du jeune homme bat la chamade, mais la porte reste close. Les fils de Priam n'osent pas braver le dieu. Une fois ses yeux accoutumés à l'obscurité, il se rend compte qu'il n'est pas seul. Cependant, il n'a sûrement rien à craindre de la femme qui se trouve à quelques pas de lui devant l'autel. Une prêtresse, sans doute. Elle se retourne lentement et l'observe. Ses yeux sombres brillent ainsi que deux perles de jais. « Qui es-tu ? » demande-t-elle. De nouveau, il explique que son taureau a été choisi pour servir de trophée, raconte comment il a décidé de le regagner et comment les fils du roi se sont sentis offensés. « Mes frères sont en effet assez ombrageux, » répond la prêtresse en souriant. Puis son sourire se fige, ses yeux se ferment à demi, et elle ajoute d'une voix plus grave, presque rauque, bouleversée par l'émotion. « Mes frères, et les tiens. Oui, mes visions ne me trompent jamais. Je viens de te voir, nourrisson vagissant, seul dans la montagne. Maintenant, je sais qui tu es. Paris, l'enfant que mes parents ont éloigné de la cour parce qu'ils le redoutaient. »